Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle session de questions-réponses, aujourd'hui en présence de Charles Gave et du pull fauviste, vous l'aurez reconnu lui-même. Mais nous sommes très élégants quand même, et encore vous ne voyez pas les chaussettes qui sont oranges et assorties au pull, on est
Et je me suis acheté une nouvelle cravate pour aller avec le pull.
Elle est superbe. Écoute, rien à dire.
Rien à dire. Hein.
Absolument rien à dire. Alors, avant de commencer dans les questions-réponses, j'aimerais juste brièvement vous parler d'un petit truc qui est sorti parce que certains d'entre vous ont attiré mon attention, je ne l'avais pas vu. Une vidéo de Tatiana Ventos qui reprend un de nos tweets sur, globalement, de ce que j'ai compris...
C'est pas un de nos tweets, c'était un de mes articles.
Oui, mais c'était un article devenu tweet, donc qui était bien ta pensée et non pas celle d'autrui. J'aimerais juste vous dire, sans rentrer trop dans les détails, parce que je sais pas moi-même trop regarder la vidéo en détail, mais qu'il faut faire la différence entre effectivement le libre-échange et le Mercosur. Ce qu'on disait dans l'article en question, c'était que les problèmes de la France aujourd'hui, c'était une classe politique corrompue qui avait pris le pouvoir et depuis un moment, et que quelque part, si on était possiblement aujourd'hui dans un libre marché, ce qui n'est absolument pas le cas, on aurait pu s'en sortir. Or, je n'estime pas, nous n'estimons pas, et nous en avons déjà parlé, que le Mercosur soit un libre marché, bien au contraire. C'est une sorte de chose qui va nous forcer à vendre, à faire rentrer du bœuf bolivien très peu cher, soi-disant pour que ces Boliviens achètent des voitures allemandes. Ceux qui ne vont pas acheter des voitures allemandes, ils vont acheter des voitures chinoises. Donc en fait, on va se faire léser de bord en bord, des deux côtés. Donc nous n'appelons pas, même en tant que libéraux, au Mercosur, parce que nous n'avons pas une vision totalement gigantesque de ce que devrait être le libre-échange, et c'est au cas par cas. Là, quand on me donne le Mercosur, je dis que ça n'est pas un traité de libre-échange, c'est une sorte
Ça
vient de l'UE déjà.
Ce qu'on essaie de dire, c'est que dans la gestion d'un État, il y a aussi tout ce qui touche à essayer de rendre la nation moins fragile, plus antifragile, vous connaissez nos... il dit, c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'énergie et la nourriture ne sont pas des choses qui doivent être laissées en dehors ou en grande partie du libre-échange, parce que une nation qui ne contrôle pas son énergie, qui ne contrôle pas sa nourriture, elle est peut-être, ses sociétés sont peut-être très rentables, mais elle est très fragile. Et là, je prends encore une fois l'exemple de la Suisse. Ben, la Suisse, qui sont l'un des pays les plus libéraux du monde, il y a deux ou trois domaines où simplement ça ne joue pas parce que ça rendrait la bête trop fragile.
Mais c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que dans l'échange des nations, et on a vu ça avec Ricardo, au fur et à mesure, l'idée c'était de se dire chaque nation va se spécialiser dans une tâche, qui va faire du drap, qui va faire du fromage, et nous allons échanger parce que c'est toujours plus rentable de se spécialiser dans un domaine. Sauf qu'effectivement, il arrive et nous sommes arrivés à un point où cette hyper spécialisation entraîne une fragilité. Or, un État-nation, et c'est le travail d'une nation, et on l'a vu la semaine dernière avec l'énergie, de aussi repérer quels sont les endroits où il est nécessaire peut-être d'être moins compétitif en termes de valeur, mais en tout cas conserver sa souveraineté. On l'a vu dans l'énergie, et l'alimentaire nous paraît aussi
quelque
nécessairement...
Quelque chose qui devrait être discuté.
Voilà. Et ce choix-là devrait être fait en interne, comme l'ont fait les Suisses, qui sont d'accord avec des coopératives comme la Migros, pour payer leur alimentation quelque part plus cher. Ils en sont conscients, mais c'est un choix collectif des Suisses.
Mais reprenons l'exemple de l'EDF qu'on a pris la semaine dernière. Il y avait une espèce de tyrannie de la concurrence, donc ils ont créé des espèces de sociétés qui
factices. Vous vous souvenez, c'était l'exemple
rien,
des faux boulangers
qui ne produisent rien et qui simplement allaient acheter à celui qui était le plus efficace, une énergie à un prix trop bas pour la revendre à d'autres. Et ben, dans ce cas-là, ça rend la société plus fragile et non pas moins fragile. Donc, il faut pas être un absolutiste de la concurrence. L'énergie, c'est peut-être quelque chose dans lequel on peut avoir un monopole national, ça me gêne pas du tout. Et de même, l'agriculture, ben, si, peut-être, en effet, la France serait un pays plus heureux si les paysans vivaient bien et qu'on achetait notre nourriture un peu plus cher, quoi.
Et aujourd'hui, ce qui nous a tués, on le rappelle, c'est le passage à l'euro, c'est le fait que nous n'avons pas pu conserver une compétitivité. Et aujourd'hui, à côté de ça, Nous avons des dépenses publiques qui n'ont fait que croître depuis 1974.
Financées par la dette.
Financées par la dette. Donc on se traîne en plus des intérêts sur la dette. Et tout ça mis bout à bout fait que, in fine, effectivement, c'est pas la Chine qui a créé vos problèmes, c'est nous-mêmes, avec notre incapacité à nous réformer et à voir au fur et à mesure du temps ces choses-là qui arrivaient vers nous.
Ce que je dis pour essayer de me faire comprendre, c'est de dire, écoutez, d'après toutes les études internationales, la France a 70% de fonctionnaires pour 10 000 habitants de plus que l'Allemagne. Donc le coût de fonctionnement de l'État français est plus élevé que le coût de fonctionnement de l'État allemand. Et qui paye ces coûts de fonctionnement, qu'on le voit ou non à l'arrivée, c'est le secteur privé. Et donc, on peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne si on a juste le nombre des fonctionnaires. Mmh. On peut garder le même nombre de fonctionnaires.
Ou avoir un taux de change flottant.
Et avoir un taux de change flottant. Mais on ne peut pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne et garder le même nombre de fonctionnaires sans foutre en l'air notre système productif. C'est pas possible autrement. Donc, j'avais écrit un bouquin il y a 25 ans en disant, ça va amener, l'euro va amener à trop de fonctionnaires en France, trop de maisons en Espagne et trop d'usines en Allemagne. Et ben, c'est là où on est et ça n'a pas marché. Donc, ce que j'essayais de dire dans cet article, c'est arrêtez de chercher des boucs d'émissaires en dehors de vous. C'est vous qui avez été responsable du désastre français. C'est personne d'autre.
Oui, et encore une fois, pointer du doigt la Chine en disant c'est à cause de la Chine, c'est à cause d'un marché ouvert. Encore une fois, aujourd'hui, même si vous fermiez toutes les frontières, je ne vois pas quel serait l'intérêt pour le pays de se dire tenez, on va refabriquer du premier bouton de culotte à d'abord, on en serait bien incapable. Je vous rappelle qu'on a une industrie qui est à 9% du PIB. Et ensuite, on n'aurait pas ni les compétences, ni la main-d'œuvre, ni la compétitivité nécessaire. Et moi, je peux m'acheter des chaussures à 400 euros, mais parce que c'est ce que ça va coûter.
Oui. Mais qui ne seront pas très belles, d'ailleurs.
Non, mais c'est...
C'est extraordinaire parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous vous dites, il y a des choses qui sont du ressort de la souveraineté et il y a des choses qui sont du ressort du marché. Et une démocratie fonctionne si on réussit à déterminer tous ensemble ce qui est du ressort du marché et ce qui est du ressort de la souveraineté. Et en France, on a abandonné toutes nos souverainetés, ce qui fait qu'on ne peut plus avoir cette discussion en France. Et donc, le problème, ce n'est pas que notre industrie ait disparu. Le problème, c'est que notre industrie ait disparu sans qu'on donne au peuple les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas ne pas disparaître. Elle était obligée de disparaître. Aujourd'hui, encore une fois, je le redis, vous avez des grandes sociétés industrielles françaises, Air Liquide, Schneider, Total... Elles ont une caractéristique commune, c'est qu'elles n'ont pas une usine en France. Donc, mais on a encore une connaissance industrielle. Et pour revenir à autre chose en ce qui concerne la souveraineté, les gens disent il faut redévelopper le nucléaire. Je dis très bien. Mais on avait, il y a 20 ans, toute une industrie où il y avait des ingénieurs des arts et métiers en particulier qui formaient des jeunes. Et donc, il y avait une vie devant soi. Et puis, à partir de Jospin, on a tué cette industrie volontairement. Donc aujourd'hui, on va faire redémarrer l'industrie nucléaire. Mais on n'a plus les travailleurs qui se connaissent. Ils sont tous partis à la retraite ou ils sont tous allés faire autre chose. Donc aujourd'hui, on voudrait faire redémarrer le nucléaire. Il nous faut 10 à 15 ans pour reformer toute une population d'ingénieurs, de contremaîtres, d'ouvriers, etc., qui connaissent le métier. Donc, s'imaginer que parce que quelqu'un a pris une décision à Paris, ça va avoir un effet immédiat, redéciderait-on de redémarrer l'industrie nucléaire, ce qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs, malgré tout ce qu'on raconte, eh bien, ça va prendre un temps fou.
Allez, on va se lancer dans les questions, assez de tergiversation, en tout cas... Ce qu'on a dit était très intelligent. And I stand by it.
C'est pas que c'était intelligent, c'est que c'était les faits.
Oui, oui.
C'était les faits. On essaye de dire quels sont les faits, et les gens nous disent, c'est une des moins grandes surprises depuis 20 ans à peu près, c'est que maintenant je découvre qu'il y a des faits de gauche et des faits de droite. Pour moi, en tant que scientifique, il n'y a que des faits. Ils ne sont pas de gauche ou de droite. C'est l'idée de dire, si vous dites ça, c'est que vous êtes de droite. C'est complètement idiot, quoi. Je veux dire, La marge brute d'autofinancement des entreprises françaises s'est écroulée depuis 30 ans. C'est un fait.
Et ça n'a rien à voir avec la Chine.
Ça n'a rien à voir avec la Chine, et tout à voir avec le fait que...
on est géré comme des cochons.
La marge brute d'autofinancement en Suède est montée pendant les mêmes 30 ans.
Avec la Chine qui existe
avec
tout pareil.
Avec la Chine qui était tout pareil.
Voilà, c'est pour ça que souvent on compare avec d'autres pays et que effectivement la Suède va très bien, merci, dans le même marché mondialisé. Et à moins de toute façon de vivre en URSS où vous fermez toutes vos frontières avec le bonheur que ça apporte au peuple,
je vois pas. Si vous fermez les frontières, vous ouvrez les camps de concentration. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
C'est un vieux classique. Hein.
Merci Jeeves pour ton apport.
Jeeves, il est tout à fait d'accord.
Alors, première question. Bonjour Charles, Emmanuel et Léonard. Que se passe-t-il si l'on investit dans de belles actions cotées en euros et si l'euro s'effondre et se voit être remplacé par un euro numérique dont on ne voudrait pas ?
Ça n'a strictement aucune importance. Alors, je vais vous expliquer. C'est, encore une fois, il faut faire une différence essentielle entre deux notions. Le prix et la valeur. Donc, la valeur, c'est dans le fond la capacité d'une société comme Schneider, Air Liquide ou Total à prendre de l'énergie, aller et en faire des produits qui se vendent et on gagne de l'argent au milieu. Tu vois, c'est donc parce que l'économie, c'est que de l'énergie transformée. Donc, tu as un entrant qui est l'énergie, tu as des sortants qui sont des produits et au milieu, si tu as bien géré, il te reste des profits une fois que tu as tout payé. Bon, ça, c'est une valeur. Et ensuite, tu essayes de déterminer comment tu vas mesurer cette valeur et tu as besoin de prix qui sont faits dans une monnaie. La valeur reste la même, en absolu comme ça, que le prix soit en euros, en dollars de Zimbabwe ou en yens. Tu vois, c'est pareil, ça ne change pas ce qui est Air Liquide. Donc, si il nous met une monnaie complètement farfelue, elle aura un prix. Et probablement ce que fera à ce moment-là quelqu'un comme Total en particulier, c'est qu'il ira se faire coter à New York.
Oui, bien sûr.
Et puis c'est tout, quoi. Donc, il faut ce que disent les gens qui ne connaissent pas. Disent que des gens comme nous connaissons le prix de toutes les choses et la valeur de rien du tout. Tu sais, c'est la vieille plaisanterie. À se concentrer sur les... Je ne me concentre pas sur les prix dans tout ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'en parle assez peu. Je me concentre sur la valeur. C'est ce que disait Warren Buffett. Quand vous achetez quelque chose, ce que vous payez, c'est le prix. Ce que vous achetez, c'est la valeur. Donc, le prix, c'est exprimé dans une monnaie. La valeur, c'est... C'est pas un prix. Il y a une différence entre le prix et la valeur, voilà.
Alors hier, tu n'as pas dû voir, mais je crois que c'est un sénateur, Fourcade, qui a dit...
Ah qu'il est con celui-là. Il était ministre des Finances sous Giscard, il a fait que des conneries.
Sous Barre, avec Barre, que...
On pouvait aller chercher l'argent des Français pour payer la dette.
Oui, tu l'as vu,
finalement. Il est inspecteur des Finances. Hein.
Voilà.
Donc restons-en là.
Question qui arrive. J'aimerais savoir quel processus va utiliser l'État et les banques pour ponctionner nos comptes courants et par une PEA. Cette confiscation est-elle légale ? Ma seconde question est relative au FGDR, qui est actuellement à moins 7 milliards d'euros divisé par la population française. On est loin des 100 000 garantis par compte. D'où viennent donc les 100 000 euros garantis par l'État ?
Ils viennent de ce que font les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils promettent des choses sans avoir le premier sou. Le fonds de garantie de tout ça, il suffira largement pas s'il y a un problème. Et là, il faut bien faire une chose, c'est là où il faut revenir au droit de propriété cher à Locke et cher à tous les libéraux, c'est que dans un pays normal, l'État n'a pas le droit, c'est même anticonstitutionnel, de s'emparer des biens qui sont garantis par le droit de propriété.
C'est un peu un droit naturel. Donc, effectivement, l'État n'a pas le droit de mettre ses gros doigts gras.
Essayer de piquer le pognon qu'on a gagné dans notre vie. Mais rien n'interdit à ces bandits de faire des lois qui les y autoriseraient.
Bien sûr.
On se retrouve encore une fois avec une contradiction essentielle entre la légalité et la légitimité. Ils peuvent faire passer une loi pour tuer tous les bigles, par exemple, mais Dieu ne plaise, mais c'est pas pour ça que ce serait légitime de tuer tous les bigles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tous ces crétins-là pensent que s'il y a une majorité, ça implique décision. Mais toute la Constitution américaine dit c'est une république constitutionnelle, c'est-à-dire que la majorité ne peut pas massacrer la minorité. Mmh. Et elle ne peut. Donc, logiquement, c'est ce que propose M. Fourcade, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'encore une fois, c'est un inspecteur des finances.
C'est fou parce qu'on vote des lois sur la retraite, mais M. Fourcade a 95 ans.
Et il est toujours au Sénat ?
Oui.
Il fait partie des membres juniors. C'est ça, ça me rappelle. Il fait partie des membres juniors. Mais il était déjà malfaisant quand il était ministre des Finances, il a fait des conneries. Bon, moi, je m'en souviens, puisque c'était les débuts de ma carrière, et je vois qu'il n'a rien appris.
Oui. Bon sang ne saurait mentir.
Bon sang ne saurait mentir, c'est... Voilà.
C'est bien, en même temps...
C'était le dernier que j'ai connu des ministres qui étaient coiffés en brosse.
Ah oui.
Il était coiffé en brosse, tu sais, il était quand même petit garçon. Hein.
Oui, c'est marrant quand même de constater qu'il y a des gens qui conservent une certaine constance, comme Alain Minc, qui s'est trompé toujours.
Toujours,
et,
surtout.
Et Fourcade, donc, et visiblement.
Et Fourcade, c'est pareil.
Il y a des choses comme
ça. Mais Alain Minc et Fourcade sont tous les deux inspecteurs des finances.
Voilà. Hasard, je ne crois pas. Bon, alors, Street Investor te demande, si l'euro disparaît, quid des ETF US libellés en euros, typiquement les PEA, et quid des comptes à terme en euros et des prêts IMO en cours, RP, locatif ?
Ah bah, alors, c'est un peu la même question que la précédente, que oui. Celle à laquelle j'ai répondu en premier. Imaginez que vous ayez emprunté en euros et que ça devienne des francs français.
Suivant le principe de la lex monetae dont on vous a parlé moultement par le passé.
Voilà. Ben, ça veut dire que vos prêts en euros seront ipso facto transformés en francs français.
Relibellisés.
Donc, vous emprunterez en francs français et vous subirez les taux d'intérêt des francs français. Ça pose un problème si vous avez emprunté vos euros dans une banque allemande.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, vous vous retrouverez avec un prêt en Deutschmark.
Et c'est toujours un problème, on l'a vu avec le Liban, quand vous empruntez dans une monnaie étrangère.
Voilà.
C'est comme ça qu'on saute avec constance et régularité.
Régularité. Donc, pour revenir à la question sur les ETF, etc., ben, les ETF, ils seront automatiquement... La valeur de l'ETF, c'est la valeur des sociétés qui était en dollars. Puis ensuite, on les achète, mettons, avec des euros. Donc, on met quelle est la valeur. Mais si le dollar monte par rapport à l'euro, ben, votre ETF, il va monter. Donc, il risque de monter en francs français vis-à-vis du dollar. Donc, ce sera exactement un pari passu, c'est-à-dire que plus le dollar montera par rapport au franc, plus vos ETF vont monter par rapport au franc. Quoi. Imaginez que vous ayez un... Je donne toujours l'exemple de la HSBC, qui, vous savez, qui est une grosse banque, qui était cotée à Hong Kong, qui était cotée en Hong Kong dollar, donc en dollar d'Hong Kong, qui était cotée à Londres en livre sterling, qui était cotée à New York en dollars. US, bah, automatiquement, les trois prix étaient les mêmes. Parce que sinon, il y a les gars qui en achètent un, qui le vendent, qui l'achètent là, qui le vendent là. Donc, il y avait un gars, d'ailleurs, qui est dans notre bureau, qui faisait que ça, arbitrer entre les trois. Mais donc, la valeur de votre portefeuille ne dépend pas de la monnaie dans laquelle elle est cotée. Ça, il faut s'en souvenir. Hein.
Oui. Une petite question, parce qu'elles reviennent souvent, de Charlie, sur le franc CFA. Bonjour, les peuples africains de la zone franc ont de plus en plus le désir de se débarrasser du franc CFA pour des raisons à la fois économiques et de souveraineté. Quel est l'avis de Charles sur cette monnaie? Alors, tu l'as déjà donné, mais redonnons-la une fois de plus.
C'est-à-dire, c'est encore un machin inventé par l'inspection des finances, où dans le fond, dans notre grande bonté, on acceptait la France de gérer les réserves de change de tous les pays africains. Et on ne savait pas trop bien comment c'était géré. Les pays africains n'avaient d'ailleurs pas accès à la réserve de change directement, c'est-à-dire que c'était du colonialisme déguisé. Il fallait qu'ils demandent la permission à l'inspection des finances s'ils pouvaient payer tel ou tel truc en dollars. Et on voit bien l'enthousiasme que génère le néocolonialisme français aujourd'hui. Il n'y a pas de pays dont on ne se fait pas virer dans les 15 jours. Et ça, c'est un des grands succès encore de M. Macron.
On peut dire que là, c'est un point culminant dans sa gestion.
Il n'en reste plus qu'un ou deux. Donc, quand il n'y aura plus aucun des pays...
Je crois qu'il nous reste le Gabon ou des pays comme ça.
Le Gabon et... Il y en a un autre.
Botswana.
Non, il n'est pas dans le... Peut-être, il y a le Gabon et il y a le... Je sais plus lequel, peut-être que c'est... Non, je sais plus lequel c'est, mais il y en a un deuxième. Le Tchad, je suis pas sûr. Et donc, ben, ça veut dire que le franc CFA est un dinosaure qui a survécu à la tombée de la... Mais il va crever.
Et il faudrait effectivement que les nations africaines reprennent l'indépendance chacune la souveraineté de son...
Chacune gère sa monnaie et chacune gère ses réserves de change.
Bah, il me semble.
Et je vais vous dire un truc, ceux qui sont bien gérés verront leur monnaie monter, ceux qui sont mal gérés verront leur monnaie baisser. C'est extrêmement triste.
Alors, bonjour Charles, vous avez mentionné ne pas avoir d'immobilier. J'imagine que c'est d'un point de vue investissement et non pas résidence principale ou secondaire.
Oui.
Emprunter à taux fixe en euros aujourd'hui, vu ce que l'on anticipe, inflation et secousses sur les taux de change, reste une bonne décision, il me semble, non ?
Oui.
Hors investissement locatif de masse en France, bien entendu.
Bien entendu. Donc, si vous pensez que votre monnaie va se péter la gueule, et si les taux d'intérêt sont bas, c'est le cas. C'est pas une mauvaise idée d'emprunter.
Sauf si vous prenez un gros levier pour faire du Airbnb, ainsi de suite. Parce que on a un autre problème, et ça tu l'as dit, c'est que les ménages français sont énormément investis en immobilier, et c'est un peu du coup des sitting ducks pour se faire taxer.
Et vous vous rendez pas compte, mais par exemple dans le monde entier, je crois, si vous dites la capitalisation boursière de toutes les actions dans le monde, c'est 100. La capitalisation boursière de toutes les obligations dans le monde, c'est 130. La valeur du patrimoine immobilier, c'est 500. Donc, il y a une masse immense de richesses qui est investie ni en actions ni en obligations, mais dans l'immobilier, tu vois. Et comme tu le dis, c'est quand même tentant, c'est ce que dit M. Fourcade, mais allons donc chercher cet argent qui dort dans l'immobilier. Le vrai problème, j'essaye de travailler dessus, mais c'est extrêmement difficile d'avoir les statistiques, c'est donc quelque chose comme la consommation en France doit être assez sensible aux variations du prix de l'immobilier. Parce que si tu as un appartement que tu as acheté 100 et qui vaut aujourd'hui 150, tu te dis, mais je vais peut-être me payer des vacances, parce que je vais emprunter un peu sur l'immobilier, tu vois ça. Et donc, la vraie épargne d'une majorité importante de gens dans le monde, c'est leur immobilier. Donc, c'est tentant de le taxer, mais en même temps, si tu le taxes, ils vont se sentir appauvris. Donc, tu vas faire s'écrouler les marchés obligataires et les marchés des actions. Donc, tu vois, relations entre tout ça qui sont quand même réelles, mais vachement difficiles à suivre.
On a aussi un autre problème dont on a parlé souvent ici, qui est la valorisation de l'immobilier en question dans des villes comme, par exemple, Paris, qui a connu une hausse qui, quand même, ne repose absolument sur rien. Rendant de sorte les jeunes ménages incapables d'accéder à un bien au prime accédant et donnant une valorisation sur de l'ancien alors qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de création de valeur.
Non, il n'y a pas eu de création de richesse.
Des appartements qui étaient, on va dire, à 700 000 euros deviennent 1,5 million, pratiquement doublés par la force du Saint-Esprit. Et on se dit, mais malgré tout, il n'y a pas eu de création là.
Tout à fait, mais je me souviens quand je suis arrivé à Paris, moi, les appartements les plus chers qui étaient le long du Bois, Neuilly, là, je ne sais plus.
L'avenue du Bois.
L'avenue du Bois. Non, c'était là où habitait Ninette.
Je vois très bien. Près du jardin d'acclimatation.
Voilà, près du jardin d'acclimatation. À l'époque, j'étais scandalisé quand je suis arrivé parce que c'était à 10 000 euros, c'était à 10 000 francs le mètre carré. Ce qui, moi, en tant que petit cadre à la banque, je me paraissais, mais c'était inatteignable parce que c'était. Bon, mais aujourd'hui, ça doit être à 20 000 euros.
Oui.
Et donc.
Oui, c'est ces appartements avec des vues très dégagées sur le parc.
Sur le parc, oui, c'est très bien.
Cela dit, je ne sais pas si tu vois, aujourd'hui, parce que c'est des touristes qui font le marché, et ils veulent être dans le 6e, le 4e, et ainsi de suite, ou à Montmartre. Donc je ne sais pas si c'est monté autant que le reste.
Oui. Mais enfin, ça a dû monter beaucoup.
Ça reste un immeuble de rapport.
Passé de 10 000, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vaudrait, si je veux, 20 000 euros le mètre carré, ça fait 120 000, quoi. 120 000 francs.
Ouais.
Ou 130 000 francs, tu te dis, 130 000 francs le mètre carré. Je vais être comme ta mère, je vais me mettre à compter en ancien franc.
En ancien franc, oui. Tu te rends compte ? 1,8 milliard.
C'est vrai, mine de rien.
Alors, une question de Sylvain qui te demande, mais je ne comprends pas pourquoi il faut toujours de la croissance. Est-ce que c'est lié à la démographie, au crédit et à la création monétaire ? Dans les années 80, on vivait très bien avec moins de PIB. Alors, Sylvain, il n'y avait pas moins de PIB dans les années 80.
Il y avait moins de PIB public et plus de PIB privé.
Ne peut-on pas vivre avec ce qu'on a? Pourquoi en faut-il toujours plus?
Alors, c'est une très bonne question, et c'est une question un peu d'origine malthusienne. Pourquoi on fait... La réponse est la suivante, c'est qu'une économie qui fonctionne, fonctionne en fonction des changements dans les goûts des gens. Et donc, mettons qu'il y a un siècle et demi, les fabricants de diligences représentaient 2% du PIB, et puis ensuite sont arrivés les trains, etc. Donc les changements de diligences, donc si tu as une économie libre, que tu as des prix libres et que tu as de la production libre, le simple fait de nettoyer les trucs qui ne servent plus à rien et de créer des choses nouvelles va créer de la croissance. Mais si par contre ton économie est une économie complètement étatique, on ne se débarrassera jamais des trucs qui ne servent à rien, on ne créera jamais rien de neuf, ce qui est la réalité, et donc à ce moment-là, on aura une stagnation. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que une économie libre, qui donc suit le changement des goûts des gens, engendre automatiquement une croissance. C'est-à-dire que notre ami ici, il veut, par exemple, il veut vivre comme en 1980. Très bien, mais en 1980, personne n'allait passer ses vacances à Phuket. Parce que c'était hors de prix.
Ça, c'était hors de prix. Tu ne prenais pas d'avion.
L'avion, c'était un truc.
Un avion transatlantique, bon, c'était...
C'était déjà, tu allais à New York. C'était... Donc, il faut faire la différence entre l'amélioration de la vie et la croissance. Et il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, on a eu une hausse du PIB en France, du secteur du PIB en tout, mais le secteur privé en France a baissé. Donc on a eu une baisse du niveau de vie en France. Et on le voit partout. Et on m'a expliqué qu'on avait le PIB qui continuait à croître. Donc, encore une fois, le PIB, c'est une très mauvaise mesure. Il faudrait presque mesurer le... C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est très difficile, c'est tellement imbriqué. Le PIB du secteur privé... Et notre ami verrait qu'il n'y a eu aucune croissance depuis, grosso modo, la fin du 20e. Quoi. En fait, ça fait 20 ans que la France stagne. Quoi.
Mais tu l'as sorti, ça, le PIB du secteur. Oui.
Mais c'est des calculs qui... Vous savez ce que disait Keynes, que j'aime pas beaucoup, mais qui avait des formules absolument géniales. Il disait qu'il vaut mieux être approximativement dans le vrai que précisément dans le faux. Donc, il y a des moments où je suis obligé de faire des calculs qui sont approximativement vrais. Mais si on me demande comment vous avez calculé ça, je dis, tu sais la fameuse phrase de Bismarck, celui qui aime les saucisses, il ne doit pas visiter une fabrique de saucisses. C'est fou. Il y a des moments où il vaut mieux pas me demander comment j'arrive à mes résultats.
c'est souvent ce que fait la gauche aussi dans certaines corrélations, mais bon.
Oui, ou dans le non sequitur, tu sais, le donc.
Oui, ou des choses comme, on le débunk chaque année, mais les femmes gagnent moins que les hommes, les riches ont plus gagné, nanana. Enfin, y a, tous les ans, on a les mêmes...
Tous les ans, on a les mêmes canards qui reviennent.
Les mêmes hommes de paille. Et on...
Ou alors, là, s'il n'y avait pas de fraude fiscale, il n'y aurait pas de déficit.
Oui, ça aussi, on l'aime beaucoup. C'est très bien. Oui, oui. Mais moi, je dis très bien, allez choper la fraude fiscale. J'ai absolument rien contre. C'est mal. C'est mal de frauder.
Mais arrêtez-les. Mais l'optimisation fiscale. Et par contre, est-ce qu'on pourrait considérer qu'un homme, un fonctionnaire qui touche 14 retraites, est-ce que ce n'est pas de la fraude?
Alors, même si c'est légal, est-ce que c'est légitime?
Ouais, certainement pas.
Au bout d'un moment, la retraite est là pour te permettre de vivre des jours...
Et on peut penser qu'il n'a pas travaillé 14 fois plus que les autres. Donc, il s'est débrouillé pour avoir des retraites qui lui étaient versées alors qu'il avait passé 2 heures par semaine au bureau. Mmh. Et ben, ça s'appelle de la fraude.
Ça, c'est pas...
La corruption.
Voilà, c'est pas génial. On n'aime pas non plus. Voilà. Alors, une question sur Trump. Est-ce que Trump a les moyens de fortement réduire la croissance du PIB du Vietnam avec les frais de douane américains? Je ne sais pas pourquoi, sur le Vietnam, il doit vivre au Vietnam. Est-ce que la croissance mondiale 2025 sera haussière ou baissière, Madame Irma, et pourquoi?
Alors, plusieurs choses sur Trump. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu, hier, il a fait des déclarations extrêmement intéressantes où il disait qu'il aimait beaucoup McCluxy. C'était un homme tout à fait compétent, qui lui avait d'ailleurs parlé depuis qu'il avait été élu. Et on lui a posé la question, est-ce que si La Chine envahissait Taïwan.
Oh, ils vont nous lâcher avec ça. Non,
absolument.
Les gens veulent absolument tous les jours que la Chine envahisse Taïwan.
Et est-ce qu'à ce moment-là, les États-Unis interviendraient? Et donc, Trump a dit qu'il avait toute confiance en M. Xi, qu'en aucun cas, il répondrait à cette question. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que Trump a fait des déclarations fracassantes, mais qu'en voyant la Chine qui... Si d'un seul coup, ils arrêtaient d'exporter vers les États-Unis, ben, il y aurait une certaine inflation aux États-Unis immédiatement. Il est en train de réviser ses demandes à la baisse. Oui. Et il fait quelque chose de très habile. Il passe de la pommade à Xi.
Tout homme d'État y est sensible.
Mais c'est pas
surtout
ça,
quand
c'est
ça vient du président des États-Unis.
Mais c'est pas ça. Le président des États-Unis, ce crétin de Biden, a dit au moins 4 ou 5 fois que Xi était un dictateur sanglant ou je sais pas quoi.
Voilà.
Donc, il s'en garde bien. Donc, il est très aimable. On peut faire des affaires avec la Chine, dit-il, et tout. Donc, ça veut dire que, si je regarde maintenant ce qu'il y a devant nous, il est à peu près certain que la Chine va connaître une très bonne croissance l'an prochain, pour les raisons qu'on a longuement expliquées. Il est probable que les États-Unis, s'ils coupent le bois mort dans tous les sens, vont nous faire un petit Milley, et ça va très bien marcher aussi. Donc si la Chine et les États-Unis vont bien, la croissance mondiale va aller plutôt bien, quoi.
Ils ont quand même, on en parle peu, parce qu'évidemment ils ont le privilège du dollar, mais ils ont quand même aussi une très grosse dette.
Ils ont énormément imprimé, mais la beauté, c'est que maintenant, il y a M. Musk qui est chargé
de couper à la tronçonneuse.
Donc, ça, on peut dire ce qu'on veut de M. Musk, mais il sait couper à la tronçonneuse. Ça, c'est quand il avait racheté Twitter, il avait viré 80% des gens, et ça marche plutôt mieux maintenant, quoi. J'imagine pas le nombre. Tu connais ma vieille histoire des gars qui s'occupaient des chats, quoi.
Oui, bien sûr.
Bon, mais c'est simplement qu'ils avaient découvert dans l'armée anglaise en 1914 qu'il y avait des maîtres chats avec des chats, et tout le monde se demandait pourquoi. Et donc ils ont cherché, ils ont trouvé qu'au XIIIe siècle, l'arme fatale, c'était le longbow anglais, le grand arc là. D'où on tient le trésor, on va vous couper les doigts. Et donc il fallait des chats parce que les rats bouffaient les cordes des arcs. Donc, dans l'armée anglaise, 7 siècles plus tard, il y avait toujours des maîtres chats et plus personne ne savait pourquoi. Et je me demande combien de maîtres chats il y a dans l'administration anglaise, l'administration française, etc. Par exemple, le conseil économique social, les hautes autorités, les grands conseils. Donc, si tu commences à couper là-dedans, tu ne te fais pas que des amis, j'entends bien. Mais, par exemple, le Patel qui va être nommé patron du FBI, ils vont pas rigoler au FBI. Parce que c'est un robuste. Il y a 7500 personnes du FBI qui travaillent à Washington. Et il dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Le rôle du FBI, c'est d'aller courir derrière les voleurs et les assassins dans les plaines de l'Oklahoma, ou tu vois...
C'est pas de faire des tampons...
C'est pas de surveiller le système politique.
Oui.
De l'espionner. Donc il a l'intention de virer ces 7500 personnes,
qui sont
de les
l'anglais.
Envoyer là-bas, et de fermer le siège du FBI pour en faire...
À l'anglais.
L'anglais, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais qui sont juste à côté de la Maison Blanche, 7500 personnes, et de le transformer en musée de l'État profond.
Ah, voilà.
Donc, ça, c'était rigolo comme idée. Mais si tu commences à virer des gens comme ça, qui sont à Washington pour comploter contre toi, il y a du boulot à faire. Hein. Tu imagines, par exemple, je me balade dans le 5e, 6e et 7e, et je vois toutes ces administrations.
Les hôtels à la région.
Hôtels à la région qui sont beaux, avec des jardins, par exemple. Il y a, paraît-il, 17 chefs à Matignon. Donc tu te dis, Matignon, ça devrait peut-être être mis, je sais pas où, à la Défense.
Rien que France Culture et l'Allée des Platanes.
L'Allée Platanes, oui.
Il y a un étage où il y a que des gars qui sont payés pour venir lire le journal. Ils ont une secrétaire.
Une voiture.
Et on ne sait pas ce qu'ils font.
Rien.
Voilà.
Ils sont payés, ils sont simplement payés pour donner l'impression, pour sortir de chez eux. Donc,
avait les clubs autrefois, hein, pour
on
ça.
On avait les clubs pour ça, c'était ce côté moins cher. Et c'est, moi, ça me laisse absolument pantois pour ça, parce que quand vous reprenez une affaire, hein, ce qui m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, la première chose que vous faites, c'est que vous faites venir les comptables et que vous lui dites, je veux voir les 100 dernières factures. Et donc, tu regardes les factures une par une et tu demandes au comptable pourquoi on a payé ça et à qui on l'a payé. Et si le comptable répond je sais pas, tu annules la facture. Tu vois, enfin, tu le fais plus, quoi. Et en faisant ça dans toutes les entreprises, tu fais baisser les coûts de 10% facilement et personne ne s'en rend compte. Donc, je peux pas m'imaginer, si j'ai été ministre du budget, je dirais amenez-moi les 100 plus grosses dépenses et je pourrais probablement couper des dizaines de milliards d'euros et personne ne s'en rendrait compte. Par exemple, je sais pas, mais il y a des subventions de plus d'un milliard d'euros pour aller chercher les gars qui se noient en Méditerranée.
Ah, les trucs de... Mais oui, mais ça, on en a parlé. Déjà, il y a 23 milliards. Alors, je voudrais juste dire 23 milliards d'euros, sachant que le ministère de la Justice, c'est 11 milliards. Ça veut dire qu'on donne à des associations deux ministères de la Justice par an.
Qui ne marche plus, du coup.
Justice qui est là pour tous les contribuables, c'est-à-dire aussi bien pénal que les juridictions civiles dans tout le territoire. La justice est complètement atone. On met 3, 4 ans, 5 ans à sortir des décisions. Est-ce que, au lieu de filer 23 milliards à des associations sur lesquelles on n'a aucun droit de regard, on ne sait pas vraiment comment cet argent est donné, ni comment il est utilisé, on ne pourrait pas avoir une justice un peu plus cossue pour le bien de tous les Français, pour sortir des décisions.
Et si, je ne sais pas comment est la police, mais ça ne doit pas être énorme non plus.
Ça ne doit pas être énorme non plus.
Donc, on voit très bien qu'il y a des coulages absolument partout. C'est ce que raconte ton ami Charles Pratt, là. C'est cette histoire des 76 millions de cartes vitales, alors qu'on est 67 ou 68 millions. Donc, vous dites, un gouvernement normal lancerait une enquête pour savoir pourquoi on a 76 millions de cartes vitales.
Mais ils savent très bien. Ils laissent couler ça parce que ça, ils pensent que ça leur achète une certaine paix sociale. Et on sait très bien aussi la dette que l'Algérie peut avoir vis-à-vis de la France en dépenses médicales, qu'on ne demande jamais à être payé. Et il y a des choses comme ça où on laisse du coulant. Et puis ça s'agrège.
Et aujourd'hui, ça veut dire que maintenant, au fur et à mesure, on continue à payer ces gens-là grassement. Et le niveau de vie des Français est en train de s'écrouler. Mmh. Donc il y a un moment où les Français vont, comme je dis, prendre leur fourche.
Il y a un moment où, c'est toujours pareil, quand tu es très riche, quand tu peux te permettre, et ainsi de suite, tu veux bien qu'il y ait un petit peu de coulage, tu te dis, allez, on ferme les yeux. Mais là, on arrive à un moment où les Français sont complètement atones. On est dans une économie donc asthénée, complètement rabougrie. On ne peut plus se permettre ces largesses, comme si on était...
Si vous imprimer de l'argent, ce que vous ne pouvez plus faire, puisque maintenant c'est la BCE qui est au contrôle, dans l'idée où si on imprime de l'argent, on se retrouvera dans la situation de l'Argentine, où ça coûtait plus cher de prendre le bus que d'aller toucher tes subventions. Donc tu n'allais plus les toucher, donc tu votes Milei.
Et ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps, l'histoire de ça touchait plus cher d'arriver avec une valise pour acheter du pain. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas à nouveau. Donc encore une fois, il va falloir couper dans le lard et franchement. Bonjour et merci pour votre travail. Powell a dit que le BTC est un concurrent à l'or et non pas du dollar. Faut-il craindre une dévalorisation de l'or vers le BTC à terme ?
Ah ben non, bougez pas aujourd'hui. J'ai regardé l'or qui est dans les banques centrales, c'est-à-dire celui dont on sait avec certitude qu'il est là, parce qu'il y a une grande incertitude sur les stocks d'or du secteur privé. Tu sais, alors, moi, en général, quand tu te mets deux pièces d'or sous ton pommier, tu le déclares pas, tu vois, ça a tendance à... Donc, il y a l'or privé, l'or public. L'or public et le BTC, je crois, ils ont aujourd'hui une capitalisation boursière qui est à peu près la même taille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le BTC est allé vers l'or, parce que c'est une espèce d'or alternatif. La question, c'est maintenant, est-ce qu'il va monter très au-dessus ? Et s'il se monte très au-dessus, à ce moment-là, les gens vont se dire, plutôt que d'acheter un truc qui n'est pas sûr, je vais acheter l'or. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais si tu veux, là, on revient sur M. Fourcade. Il est certain... C'est là Fourcade ou Fourcade ?
Fourcade.
Il est certain que dans un univers où on commence à parler de captation...
Tout le monde va aller vers le BTC.
Il me semble. Où tu te dis, c'est peut-être volatile, c'est
D'ailleurs,
peut-être...
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué... Mais dès que Trump a été élu, le BTC est monté comme une fumée.
Oui, mais c'est aussi parce qu'il a dit qu'il allait faire une réserve
Il a dit tout ça, mais je pense que c'est aussi qu'il y avait peut-être certaines personnes aux États-Unis qui se disent s'il est élu, l'ami, il va sans doute y avoir des gens qui vont se retrouver en prison. Et si t'es une de ces personnes très fortunées dont tu crains d'être en prison, tu veux pouvoir partir avec l'avion le plus vite possible.
Ton avion. Tu veux dire que Nancy Pelosi, elle est là avec ses deux clés Ledger.
Voilà. Prête à partir ouais. Vers l'Argentine ou vers le Mexique.
La Colombie, ouais.
Oui, mais il doit y en avoir un paquet aux États-Unis parce qu'il est évident qu'avec le gouvernement qu'a nommé Trump, enfin qu'il est en train de nommer, cette fois-ci, ils vont mettre des gens en prison.
Ah, cette fois-ci, ils vont pas hésiter. La première fois, ils l'ont empapaouté dans les grands marécages en lui collant des procès, en le machin truc, puis il essayait de la jouer carte establishment. Là, il est en médiocre.
Non, mais là, tous les gens qu'il a nommés sont des gens qui ont l'intention de se payer l'état profond.
Ouais, il faut qu'il nettoie. C'est simplement pour avoir la même chose et en finir avec toute notre classe politique. Je ne vois que médiocrité après médiocrité. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, alors j'adore, toute la classe colbertiste de droite oui. est devenue libérale. Alors, ils se revendiquent tous, et c'est la course à l'échalote. Hein. Moi, je suis plus libérale que toi, non, c'est moi et tout. Nous, ça fait 14 ans, 15 ans maintenant qu'on porte...
On se disait, est-ce qu'on va utiliser le mot libéral ? Parce qu'il était tellement chargé de connotations négatives qu'on se disait...
Et d'ailleurs, les cinq premières années, avant qu'on perce un petit peu et ainsi de suite, j'expliquais les concepts sans avoir recours au mot libéral. C'est-à-dire, très souvent, dans les communications sur les réseaux sociaux, je parlais des concepts et je n'utilisais pas le mot. Et les gens y venaient et ensuite on leur disait « Ah, c'était du libéralisme !» Mais on ne leur montrait pas, si tu veux.
J'ai discuté souvent avec des artisans à Avignon, je sais pas quoi, et ils discutaient avec moi, puis à la fin, je leur disais, vous tenez un discours parfaitement libéral. Alors, ils étaient très surpris, parce que pour eux, le libéralisme, c'est comme si je leur avais dit qu'ils étaient très méchants, tu sais.
Il y a un mois, mais j'ai pris un taxi, comme ça, et puis je sais plus, on en vient, il me parlait des trucs qu'il regardait, et du coup, il me parle de toi, et puis je lui dis, et puis il continue à parler, c'était un Marocain, un monsieur d'un certain âge, et il me dit, mais ça va, mais il est de gauche, lui.
Mais en plus, le libéralisme, quand il était au pouvoir... avec Bastia et des gens comme ça, ils siégeaient à gauche.
Guizot.
Ils étaient contre
suivant les décisions, ils pouvaient voter soit à droite, soit à gauche.
Mais au 19e, il y avait le socialiste, il y avait celui qui était « il faut que les choses ne changent pas parce qu'elles sont très bien comme elles sont », le vrai conservateur. Il y avait le libéral et tout le discours se passait entre ces trois personnes. Et les deux se sont mis d'accord, le conservateur idiot et le socialiste, pour éliminer le libéral, parce que c'était le seul qui disait des choses intelligentes.
Après, on peut voter parfois avec des socialistes. Il n'est pas interdit dans des temps anciens que des socialistes aient eu deux ou trois fois des réflexions intelligentes. Regarde Montebourg, il a fait des choses bien.
Il a fait des choses bien, mais ça, c'était... C'est si j'ose dire... il y a eu des socialistes, mais... Les socialismes qui favorisent la liberté sont quand même, on peut discuter avec eux, mais ceux qui veulent que tout le monde soit pareil, alors ça non.
Tu vois, Manuel Valls, on l'a critiqué, mais sur certaines choses, parfois je me disais, ok, c'est un discours rationnel que je peux...
Pendant ce temps, par hasard, ils prennent une bonne décision.
Ouais. Enfin, je parle des anciens socialistes, hein, parce que les nouveaux, enfin tout ce qui touche au LGBTQR, ST, VRW, je peux pas ça. Alors, est-ce qu'être en cash en yuan renminbi est-il pertinent?
Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile, donc c'est plus facile d'être en yen.
Ouais. Est-ce que tu penses que des actions chez Total peuvent remplacer les 25% de l'ETF énergie recommandé par Charles ?
Oui, mais le problème, c'est que Total a un problème politique qui est la France. Et donc, on ne sait jamais ce qu'on va nous inventer, les crétins à Paris. Et donc, ils peuvent décider un jour de taxer Total. Donc, il y a une espèce de... Depuis qu'il y a eu le Total a baissé par rapport aux autres valeurs pétrolières parce que on a introduit une prime politique, une prime Mélenchon, si tu vois ce que je veux dire.
Il y a autre chose, c'est que aussi quand vous achetez un ETF énergie, le risque de change n'est pas sur vous, alors que quand vous achetez un ETF Total,
non, mais Total, la valeur de Total, c'est indépendant du prix de
l'énergie. Oui, c'est vrai.
Ce que je veux dire par là, c'est que Total, c'est une société merveilleuse, très bien gérée, et on a du pot d'avoir une grande société pétrolière en France, parce que les Allemands n'en ont pas, par exemple. Eh bien, mais si on laisse faire les crétins à Paris, elle va péricliter.
Comme toutes les choses. Alors il y a Nabila qui pose une question qui revient sur quelque part le préambule, la première chose dont on a parlé, mais on va y retourner. Que pensez-vous d'arrêter les importations d'autres pays pour justement booster notre économie?
Par exemple, vous avez... Bon, très bien. On va arrêter les importations.
Alors déjà, première question.
Est-ce que Nabila va arrêter de se servir de son téléphone?
Voilà. Et est-ce qu'elle va arrêter d'acheter des Nike? Et qu'est-ce que vous allez acheter pendant la
elle
période?
Elle peut acheter des charentaises.
Non mais voilà, bon, donc ça veut dire dans un premier temps, vous n'allez plus pouvoir consommer. Ensuite, ça voudrait dire qu'on se remette à fabriquer de A à Z absolument tout dans l'économie. Est-ce que c'est notre rôle aujourd'hui dans
En plus, le niveau de vie baisserait énormément.
Puisqu'on n'aurait plus les moyens.
Mais si à la place d'acheter tes Nike, je sais pas comment ça vaut, 200 euros, j'en sais rien. Oui, 200 euros. Tu dois acheter des Nike
Made in France
à 600 euros, ça veut dire que tu as 400 euros que tu ne pourras pas dépenser pour les restaurants. Quoi. Et donc, automatiquement, les gens ne comprennent pas, c'est que dans les importations, il y a aussi toute une série de produits qui sont semi-finis, qui te permettent de... Et puis ensuite, si les gens disent, bon, mais très bien, vous ne voulez pas acheter mes Nike, dit la Chine, donc à ce moment-là, je vais interdire LVMH. Et à ce moment-là, le cours de l'AMF, tout le monde est appauvri. Donc,
alors aussi, il y a autre chose. C'est on a déjà vu que la marge brute
d'autofinancement
des entreprises était morte. Et il ne faut pas oublier que les entreprises aussi consomment du produit chinois.
C'est ce que je te dis.
Ah oui, oui. Donc tout à coup, si on dit aux entreprises, bon, on va vous faire du boulon, mais à la place de 0,25 l'unité, ça va être 2,50, sachant qu'ils sont déjà...
Prenons une fois de plus l'énergie. Donc, on n'importe plus de pétrole. Eh bien, l'économie française s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est fait à l'extérieur, le pétrole, on n'en a pas chez nous. Donc, tu vois, c'est une idée que le capitalisme marche parce qu'il est vivant, parce que il faut trouver des nouvelles façons de faire les choses à ce moment-là. Donc, si tu te spécialises dans ce... C'est toujours l'exemple que je donne de la secrétaire et du patron de médecine. Le patron de médecine, il est payé 5000 euros de l'heure quand il fait des opérations. Et la secrétaire, elle est payée 200 euros de l'heure pour prendre des rendez-vous. Mais le patron, il tape beaucoup plus vite et il a une bien meilleure idée de son temps que la secrétaire. Donc, mais s'il tape pendant une ou deux heures pour faire lui-même ça... Pendant ces deux heures, il gagne que 200, alors qu'il aurait pu gagner 5000. Donc la réponse à Nabila, c'est foutez bien la paix aux gens et permettez aux gars qui gagnent 5000 d'exporter. Et nous, on apportera des choses à 200. Et on s'en tire. Et tout le monde sera plus riche. Donc l'idée que la France a été détruite par le libre-échange est une connerie. L'essentiel, c'est que la France a été détruite par son État. Mais pas par, encore une fois, reprenons l'exemple de la Suède, qui va très bien.
Bonjour, pensez-vous que Trump, pour son projet de réindustrialisation, aura besoin de dévaluer le dollar pour concurrencer la Chine, ou bien il se contentera de produire du pétrole moins cher aux USA? Et de l'autre côté, je voyais plutôt une hausse du dollar avec l'augmentation des taux, comme l'a promis Trump, et la réduction des dépenses de l'État avec le Doge de Musk. Que pensez-vous de ces deux scénarios?
Moi, ça me paraît... Alors, il faut bien qu'on dise une hausse du dollar, c'est une hausse du dollar contre quoi?
Oui.
Et moi, ce que je dis, c'est il y a, je dis toujours que les monnaies, ça baisse tout le temps, mais qu'il y en a qui ont des gros parachutes, le franc suisse, et il y en a qui ont des tout petits parachutes, je sais pas, le yen récemment, tu vois. Donc à ce moment-là, tu as l'impression que le franc suisse, qui baisse plus lentement, monte très vite par rapport au yen, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une illusion d'optique. Toutes les monnaies baissent, mais la taille du parachute. Donc, il est certain que, il semble que l'Europe, on n'a plus de parachute. Donc, si tu me dis, le dollar va monter vis-à-vis de l'euro, je te dis, oui, c'est pas que le dollar va monter, c'est que l'euro va se viander. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin. Mais par contre, est-ce que le dollar va monter contre les monnaies asiatiques, contre le yen aujourd'hui, etc.? Je crois pas. Donc, comme je me dis, donc, si les monnaies asiatiques vont monter par rapport au dollar et si l'euro va passer par rapport au dollar, je me dis, ce serait peut-être pas con de mettre son cash dans les monnaies asiatiques. Parce que tu vas avoir le double effet, quoi. Donc je raisonne jamais en le dollar va monter, le dollar va baisser. Je raisonne toujours, mais contre quoi?
Oui, bah oui, bien sûr.
Et donc aujourd'hui, la question c'est, qui est posée de façon implicite, c'est est-ce que l'euro va baisser ? Et la réponse est oui.
Oui. Alors, et ça sera, je pense, notre dernière question. Bonjour. Une question que j'ai du mal à comprendre, c'est comment les obligations d'État perdent de la valeur. Vous avez expliqué, vous ou Didier Darcet, dans une récente vidéo, que les obligations françaises avaient baissé de près de 40% depuis 2018. Mais lorsque l'on détient... En termes réels. Mais lorsque l'on détient une obligation, on récupère un coupon tous les 3 mois, plus le montant total à la fin. Donc comment est-ce possible qu'on perde de la valeur sur le marché secondaire ?
Eh bien ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans une des leçons de l'Université de l'Épargne, à laquelle je pourrais envoyer. C'est, imaginez que vous achetez une obligation à un moment où les taux d'intérêt étaient à zéro, donc il y a 5-6 ans.
Oui, voilà.
Bon, donc là, vous touchez rien, et la seule chose que vous avez, c'est que vous l'achetez à 100, et on vous la remboursera à 100 10 ans plus tard.
Mais comme il n'y a pas d'inflation...
Et à l'époque, il n'y avait pas d'inflation. Mais s'il y avait une inflation de 3% par an, à ce moment-là, ça va vous faire à peu près en 10 ans 35%. Donc, vous toucherez en valeur d'achat 65%. Donc, une partie importante de la baisse se passe sans que vous la voyez. Votre pouvoir d'achat de l'obligation baisse parce que l'inflation est supérieure au taux d'intérêt. Bon, ça, c'est la première façon de perdre de l'argent. La deuxième, si maintenant, l'État français, d'un seul coup, il vous reste 6 ou 7 ans sur votre obligation que vous avez achetée à 10 ans, donc elle sera remboursée 6 ans plus tard, et qu'ils émettent des obligations à 6 ans, l'État français à 3%. Votre obligation est à zéro. Donc il va falloir qu'elle baisse en capital de façon à donner du 3% à l'échéance comme l'autre. C'est-à-dire que si celle-ci, béton, est à 100, celle-là devrait être à 60, pour qu'en allant de 60 à 100, ça fera à peu près 3 ou 4% par an, en 10 ans, tu vois ce que je veux dire ? Sont donc automatiquement toutes les obligations d'État doivent avoir le même rendement, que ce soit en allant de 60 à 100, ou que ce soit en payant 3% et en restant à 100, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un phénomène. Tu ne peux pas avoir deux obligations d'État, une qui te donnerait du zéro, une qui te donnerait du 3, parce que tout le monde vendra celle qui est à zéro pour acheter celle qui ira à 3. Et en capital, celle qui est à zéro baissera suffisamment jusqu'au moment où son rendement à l'échéance sera 3. Et à ce moment-là, elle cessera de baisser. Donc, une hausse des taux, ça veut dire une baisse des obligations existantes, et une baisse des taux, ça veut dire une hausse des obligations existantes. C'est-à-dire que tu dois faire, j'ai fait un graphique, tu mets les taux d'un côté, le cours de l'obligation à 10 ans de l'autre, et tu mets une échelle à l'envers, et les deux se recoupent parfaitement. Donc, quand je vous dis les taux d'intérêt vont monter, il ne faut pas avoir d'obligation longue, il faut avoir du cash.
Et voilà.
C'était clair ?
C'était très clair, je pense que tout le monde a compris. Voilà, on a fait un petit tour questions-réponses.
Juste faire une autre remarque sur Trump, justement, parce que j'ai été très frappé par ce qui s'est passé à
Notre-Dame.
D'abord, c'était vraiment le retour du shérif.
Oui.
C'est-à-dire, ils étaient tous en train, tu sais, c'est comme le patron de la mafia.
Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord que les chasubles étaient atroces ?
Oui, les chasubles, ça, c'était un peu le truc de Microsoft.
Bah, c'était ça, ou c'était le Simmons, tu sais, Et tu te dis, on a quand même des choses ravissantes. Oui, mais Gastel Bajac, ça fait plusieurs... Il avait fait les JMJ aussi, je suis désolée. J'ai jamais trouvé... On dirait un vieux Calder, ou... Enfin, c'est... Je trouve que... C'est l'ouverture de Notre-Dame. On était dans un dimanche de l'Avent, en plus. Chose de traditionnel et brodé. Pour moi, en tout cas, ça m'a choqué. Bon, bref. Bon.
Donc, c'était le retour du shérif. C'est-à-dire qu'on venait, tout le monde venait lui baiser la main. Tu sais, c'était comme dans Le Parrain. Tu sais, c'était.
Et il y avait tous les rabots gris sur le côté gauche, sur leur petite chaise.
Les rabots gris.
Qui étaient assis tout petits comme ça.
Tout petits comme ça, qui avaient honte. Et quand les rabots gris ont vu passer Musk, ils sont rabots gris encore deux fois plus.
Sauf Carla Bruni qui était genre « pick me ».
Et c'était extraordinaire. Donc j'étais là, je me disais « mais c'est vraiment le retour de la légitimité en politique ». C'est-à-dire c'était deux gars qui, l'un, la légitimité démocratique, il avait été élu avec une majorité, etc. Donc... Alors que tous ces gars qui étaient dans l'église, ils étaient tous légaux, mais pour ainsi dire, aucun n'était légitime, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le retour de la légitimité et la légitimité des affaires avec Musk. C'est-à-dire que c'était la légitimité démocratique capitaliste contre le socialisme et la social-démocratie.
Mais cela
c'était
dit,
tellement visible.
Je pense que Musk a fait un petit coup coquin. Il m'a fait penser... Bon, j'étais amie quand j'étais plus jeune avec Henri Verneuil, et quand il est décédé, la cérémonie avait eu lieu à l'église arménienne, qui était rue Jean Goujon. Et tout le monde était là, la veuve était devant, on était devant, il avait passé son dernier Noël à la maison, et il s'est fait opérer juste après. Et arrive Alain Delon,
10 minutes en retard.
Mais 10 minutes en retard avec un imper belge, qui remonte la travée tranquillou, qui vient s'asseoir à côté de la veuve, genre tout le monde m'a attendu, alors que l'office était commencé. Hein, c'était genre Alain Delon est Alain Delon. Et là, Musk, il nous a fait un petit coup
mais
pareil.
Exactement.
Tout le monde était là, il est arrivé au dernier moment, genre c'est moi, j'arrive.
Mais c'était justement pour montrer.
Ouais,
avec,
oui.
Et donc, ils ont écrasé de leur légitimité les autres. Et on a bien eu l'impression qu'on avait donné, Macron qui est avec Zelensky, là, qui a été, ils ont fait une petite réunion d'une demi-heure, que Macron avait organisée de façon impromptue, et j'ai l'impression qu'on leur a donné leur feuille de route, quoi. On leur a dit, bon, à partir de maintenant, vous faites ça et vous faites pas ça, quoi.
Et tu as vu qu'ils ont, désinvité von der Leyen au dernier moment.
Ouais, parce qu'elle aurait reçu des cailloux. Ouais.
Alors, premièrement, elle aurait reçu des cailloux, et la veille, ils ont voté le Mercosur.
Oui, c'est ça.
Donc, tu te rends compte, il aurait fallu, parce que là, on leur a attendu avec des fourches, hein.
Bah, surtout le Mercosur, alors que le Parlement français, à l'unanimité, avait dit qu'il fallait pas le voter, le Sénat aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite quand il y a plus de Premier ministre en France pour aller signer ça. Donc, c'était vraiment le doigt qui sauve, quoi. C'était, elle nous a fait ça. Et donc, vous pouvez pas vous empêcher que de penser que, avec, donc c'était intéressant. Madame von der Leyen n'était pas là parce qu'elle ne représente aucune légitimité. Et les deux autres écrasaient leur légitimité.
Donc ça veut dire c'était que vraiment intéressant
c'est l'effondrement de cette classe.
Et c'était intéressant en termes de body language, effectivement, et tout ce qui est dans le non-dit.
Ils étaient tous recroquevillés comme
ouais.
ça. C'était Solzhenitsyn face au Comintern, tu vois.
Et l'impression de puissance que donnaient les deux autres, et de puissance et de quelque part aussi, je m'en foutisme. Ils étaient tellement au-dessus, genre...
Mais ils étaient habités. Trump était habité par sa légitimité de sauver les États-Unis et Musk était habité par sa légitimité de couper toutes les dépenses inutiles et
deux grands patrons qui a fait du pognon
mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui
c'est pas François Hollande qui peut vraiment s'en targuer quoi.
Non mais ça veut dire qu'aujourd'hui la légitimité vient soit de celui qui a été élu soit de celui qui a réussi et chez nous ils sont plus élus par les peuples et ils n'ont pas réussi. Alors, on avait l'impression de cafards.
Il y avait un moment qui était assez drôle. Il disait bonjour il saluait Albert de Monaco. Et je pense qu'il n'a pas compris qu'à côté de lui, c'était la reine des Belges. Et donc, il lui parle, mais à la reine des Belges, en lui disant du style, tu n'entends pas, mais c'était quelque chose comme c'est bon, il vous enquiquine pas trop, tu vois. Mais et personne n'était là pour lui dire non, c'est pas sa femme. Ça pourrait, parce que dans les âges, ils sont pas c'était Mathilde.
Non, donc, si vous voulez, il y a un an, j'avais écrit un livre qui s'appelait La vérité vous rendra libre, dans lequel j'expliquais comment cette classe mondialiste avait essayé de prendre le pouvoir, pourquoi elle avait échoué, comment elle allait échouer. Et ça se passe exactement, si j'ose dire, comme prévu. Ils sont en train de se faire défoncer la gueule. Donc, c'est une nouvelle. Le jour où Trump sort tous les dossiers de la corruption internationale avec General Electric, etc.
Ah, celui-là, on l'attend.
Mais à ce moment-là, on peut dire qu'il y a des gens à l'Élysée qui se sentiront un petit peu mal le jour où on verra combien ils ont touché, quoi.
Ben, ils devront aller s'occuper de sa famille, de leur famille.
Mais peut-être avec un petit thème, peut-être interruption dans un endroit à l'ombre.
Ouais. Ils iront au Canada.
Ou peut-être ils resteront en France.
C'était pas Fabius qui est allé au Canada ?
Non, c'était Juppé.
Juppé.
Qui avait été enseigné à HEC Montréal. Comment frauder le fisc ?
Bah sinon, tu peux aller aussi à l'école de Lausanne, là, visiblement, comme Bruno Le Maire.
Oui, mais ils sont très surpris. Là. Les étudiants à Lausanne, ils trouvent que ça fait baisser le niveau de leur université. Ils sont très fâchés. Ils sont très, très fâchés.
Je le sais
parce que Didier donne des cours à Lausanne.
Et c'est une très bonne université. Ma fille y avait applied. Mais c'est un diplôme qui n'est pas évident parce que tu...
Tu peux te faire virer chaque année.
Tu peux te faire virer chaque année.
Donc,
c'est
pas sympa. Tu fais un an, deux ans, puis à la troisième année, pan, tu es viré.
Ils te font passer de première en deuxième année en te disant, vous devez valider des UV. Et en gros, si tu ne les valides pas alors que tu es en troisième année, tu te retrouves à la case départ avec zéro diplôme que tu ne peux pas prétendre rentrer en deuxième année de Doug ou quoi que ce soit.
C'est, Donc c'est un truc un peu sévère.
Oui, voilà.
Bon, donc l'essentiel de ce qu'on veut vous dire, c'est les nouvelles sont très bonnes.
Voilà.
Nos ennemis sont en train de se faire défoncer la gueule. On est très contents.
Voilà, sur cette belle analogie réaliste. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de mettre des pouces pour que ça remonte dans les algorithmes de recherche, d'autant qu'on est blacklisté, on le sait.
Si vous pouvez faire quelque chose pour nous aider, parce qu'on ne réussit pas à dépasser un certain niveau, alors que quand je passe ailleurs, je suis à 200 000. Donc il y a quelqu'un qui, chez YouTube, est en train, avec des gros doigts velus, pour m'empêcher de... Donc, et avec Emmanuel, donc... je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais essayez
de... On parlait autour de vous, mettre des likes et puis tout ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
À bientôt.